Radio Rythme Bleu, il est 17h45, Info Soir, c'est avec vous, Léana Colombo.
Un nouvel incendie à Ducos ce matin. Le dock de location de voitures Visa a de nouveau été la proie des flammes. Un acte loin d'être isolé et un ras-le-bol grandissant des riverains. Le bureau de l'Assemblée de la Province Sud précise les modalités d'application du ticket modérateur pour les bénéficiaires de l'aide médicale gratuite en longue maladie. Plus d'explications, dans ce journal. Le grand chef de la Roche à Marie, Hippolyte Sinewami, ne fait plus partie du Sénat coutumier. Il dénonce la politisation de l'institution et exige que la parole coutumière soit représentée dans les discussions avec l'État. Mauvaise nouvelle, les amateurs de musique devront encore prendre leur mal en patience. Les Francofolies 2024 sont annulées en cause la situation actuelle sur le territoire. Et à la fin de ce journal, nous verrons ensemble le programme de la soirée et de la nuit pour nos athlètes lors de ces Jeux Olympiques Paris 2024. Notre nageur calédonien Maxime Grousset entre dans la compétition ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Commençons ce journal avec un point dans les communes. À Nouméa, le dock Visa, situé derrière l'ancien magasin Monsieur Bricolage, a de nouveau été incendié ce matin vers 11h. Le bâtiment avait déjà été ravagé par les flammes au début des émeutes. Les pompiers sont rapidement intervenus, mais plusieurs carcasses de voitures entreposées à l'entrée du bâtiment ont dû être déplacées pour mener à bien l'intervention. Un travail de consolidation de la structure a été réalisée car elle menaçait de s'écrouler. Il s'agit cette fois, comme souvent, d'une remise à feu. Ludovic, employé chez Decorama, un magasin également à Ducos Factory, indique éprouver un ras-le-bol face à ces exactions incessantes.
On le voit tout le temps, Plexus a été incendié la semaine dernière. Là, ce matin, c'est Ducos Factory. Donc, tous les 3-4 jours, il y a des locaux qui sont de nouveau incendiés. On ne sait pas dans quel but parce que de toute façon, il ne reste plus rien. Donc.
Est-ce que pour vous, il y a un vrai ras-le-bol ?
Oh bah oui, un ras-le-bol déjà de par l'emploi et pour la société en tant que personne parce qu'on ne sait pas où on va. Les commerces, ils ne savent pas où ils vont. Nous, on ne sait pas où on va en tant qu'employé parce que là, voilà, à mon niveau, j'ai du travail administratif, mais dans 3 mois, ça se trouve, j'aurai plus de travail. Donc on ne sait pas. On vit au jour le jour maintenant.
Et également, des pénuries de carburant sont constatées aujourd'hui dans le Mont-d'Or Sud. Les stations-service sont ravitaillées par barge depuis les blocages de la route de Saint-Louis. Elles ont reçu du carburant en faible quantité, explique Julie Témori, gérante de la station mobile de Ploumes.
Nous, on est réquisitionnés depuis le début des événements. Depuis que nous avons réussi à nous ravitailler assez régulièrement, on a levé la réquisition. Sauf qu'à aujourd'hui, nous avons atteint la limite pour distribuer à toute la population. Donc depuis hier, on limite et on réquisitionne le carburant pour les forces de l'ordre, pour les pompiers, les ambulances, les infirmiers, infirmières, les personnes vraiment sur la liste prioritaire. Lundi, la station Chelles-les-Gémeaux a reçu du carburant, la station mobile La Coulée a reçu du carburant, mais comme c'est des faibles quantités, c'est vrai que ces stations ont été prises d'assaut par les clients et aujourd'hui, il y a pénurie de carburant dans les stations.
Les queues reprennent devant les stations, mais il n'y a pas de limite dans l'achat de carburant. Notez que la station Shell à La Coulée réadapte ses horaires d'ouverture qui sont disponibles sur sa page Facebook. Et puis un mot de circulation, la journée a été fluide dans le Grand Nouméa. Seule la situation au Mont d'Or reste inchangée. La RP1 est toujours coupée à la hauteur de la tribu de Saint-Louis. Ce matin, des branchages étaient signalés dans le col de la pirogue, mais aussi à Winané. L'Assemblée de la Province Sud a adopté lors de sa dernière séance publique la suspension de l'aide médicale gratuite. Le bureau de l'Assemblée a précisé aujourd'hui ses modalités et notamment celles qui concernent le fameux ticket modérateur, Jean-François Baudin.
La suspension de l'aide médicale gratuite, déjà en œuvre, rappelons-le, en province Nord et en province des Îles depuis plus d'un an maintenant, a été décidée par la Province Sud qui ne peut plus assurer la prise en charge de ses dépenses en raison de sa situation financière et budgétaire. Cette suspension est effective depuis le 15 juillet et elle est momentanée du moins jusqu'à ce que le gouvernement résorbe ses dettes, avait annoncé l'exécutif provincial, qui rappelle que l'aide médicale est un dispositif relevant de la compétence du gouvernement qui est mise en œuvre par les provinces sans que le gouvernement participe à son financement. Le bureau de l'Assemblée a donc précisé aujourd'hui les modalités d'application du ticket modérateur, c'est-à-dire de la charge qui revient aux patients lors des consultations ou des soins. pour éviter les ruptures de soins chez les personnes atteintes de longues maladies. Le bureau de la province sud indique que leur participation sera limitée à hauteur de 10%, appliquée uniquement aux coûts de consultation en cabinet et en visite à domicile, ainsi qu'à se lier au transport sanitaire terrestre des patients vers et en provenance de leur lieu de soins. Le ticket modérateur restera également à 10% pour les femmes enceintes et pour les enfants jusqu'à leur 3e anniversaire. Mais il passe de 10 à 20% pour tous les autres patients, conformément aux dispositions déterminées par le Congrès. Le reste des frais de santé, indique la province sud, c'est-à-dire l'achat de médicaments, les examens ou les frais de laboratoire ou des soins infirmiers, seront intégralement pris en charge en tiers payant par la province sud, comme elle le faisait auparavant. Rappelons que certaines catégories de personnes ou d'actes restent aussi exemptées de tickets modérateurs. Cela concerne notamment les cas d'hospitalisation, de prise en charge d'un handicap ou encore les EHPAD.
Et santé toujours, Jean-François, le centre hospitalier de Coumac et celui de Point-d'Imier réduisent la voilure. Le directeur du CHN indique qu'en raison de la pénurie médicale et malgré toutes nos recherches, précise-t-il, il n'y aura plus qu'un seul médecin dans chacune de ces structures hospitalières et ce, à partir du 1er août, c'est-à-dire jeudi. À partir de cette date, les urgences dans ces deux centres seront fermées la nuit et n'ouvriront qu'en journée, soit de 7h à 18h. Cette pénurie de médecins est le sujet dont nous avons parlé ce matin avec notre invité, le docteur De Grélan, président du comité médical d'établissement du CHT.
La Nouvelle-Calédonie souffre d'un manque de soignants. La situation tendue depuis plusieurs mois s'est considérablement dégradée depuis le 13 mai dernier. Les structures hospitalières de Coumac et de Point-d'Imier sont donc en grave pénurie. Le CMS de Tours, rappelons-le, a dû fermer lui aussi car le personnel soignant ne veut plus rester sur place. Il manque aussi des médecins au CHT ou encore à la clinique Quindomania. Et ceux qui renoncent à exercer en Calédonie invoquent toujours la même raison, l'insécurité chronique. Nous en avons parlé ce matin avec notre invité à 7h30, le docteur Thierry De Grélan, le président du comité médical d'établissement du CHT.
Il faut quatre choses pour tenir bon et être à peu près heureux dans la vie. Il faut la sécurité, se sentir en sécurité, ce qui n'est pas le cas. Il faut pouvoir manger et donc avoir un salaire. Et on a une insécurité économique à l'hôpital aujourd'hui. J'ai une pensée pour tous ces gens qui ont perdu leur emploi en Calédonie catastrophique et qui sont encore en train d'en perdre là. La troisième chose qu'il faut, c'est pouvoir éduquer ses enfants. Et la quatrième chose, c'est avoir une santé, être pris en charge sur le plan sanitaire. Je pense que quand la chaise elle est à ses quatre pieds, elle tient bon. Si vous en avez un qui s'en va, voilà. La sécurité, déjà, c'est le pied qui manque depuis un bon moment. Et là, on est dans une insécurité chronique qui fait partir les gens, clairement. C'est le motif numéro un de départ de la Calédonie en ce moment, qui continue aujourd'hui à être un motif de départ.
Face au manque chronique de médecins depuis plusieurs mois, le recrutement de médecins étrangers, sous condition évidemment d'une formation validée par les services de santé, est une piste qui a été mise en œuvre, mais elle ne porte pas ses fruits.
Les médecins des pays étrangers, oui, on en a eu quelques-uns. En fait, ils sont soumis aux mêmes contraintes que les autres. On a un Israélien qui nous a dit « Non mais vous vous rendez compte, vois ce que je vis, je ne vais pas venir chez vous. » On a un médecin burundais qui, pareil, a décliné notre offre de venir ici pour des raisons de sécurité évidentes. On peut faire venir un Calédonien qui a fini ses études, mais vous savez, il n'y en a pas beaucoup. Donc après, il faut avoir envie de tenter l'aventure. C'est quand même pas simple.
Pas simple donc de trouver en ce moment du personnel soignant qui veuille tenter l'aventure en Calédonie au regard de la situation actuelle, même si les structures hospitalières y travaillent, nous a dit le docteur De Grélan.
En Nouvelle-Calédonie, on a recruté par exemple des médecins qui avaient perdu leur cabinet ou qui étaient vraiment dans une impasse. On a fait parce qu'on en avait besoin, tout simplement. Trois médecins libéraux qui travaillent chez nous en ce moment. On va recruter des sages-femmes parce qu'il y a un gros problème au niveau des sages-femmes aussi. Donc déjà, il y a un bassin de recrutement possible sur le territoire, transitoire. Ensuite, la réserve sanitaire, ce n'est pas une solution pérenne. Les gens de la réserve sanitaire viennent pour trois semaines. Trois semaines, ce n'est pas une solution, mais neuf mois pour embaucher un médecin. Donc trois semaines, pour aller jusqu'à neuf mois, il nous en faut quand même. Et en plus, elle est à la charge du CHT, je tiens à le préciser. On a eu des devis de réserve sanitaire, ça coûte très cher. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant sur la réserve sanitaire, ou alors pour passer un cap vraiment aigu.
La réserve sanitaire avait été envoyée au moment du Covid. Elle avait été prise en charge par qui?
Alors par l'État.
Voilà, donc ça peut être une piste éventuellement.
Ah, ce serait une merveilleuse piste, oui, parce que les finances de l'hôpital ne permettront pas de payer la réserve sanitaire.
À ces difficultés de recrutement de médecins s'ajoutent aussi des inquiétudes financières avec un système à bout de souffle. Sans aide extérieure, il sera compliqué de tenir, a conclu le docteur De Grélan.
Plus de 160 chefs d'entreprise ont répondu présents ce matin au rendez-vous de l'économie organisé par la CCI. Un rendez-vous qui portait sur le thème des moyens bancaires mis à disposition des entreprises en difficulté, Gilles Ménage.
Durant plus d'une heure et demie, les entrepreneurs ont pu poser directement leurs questions aux représentants des quatre banques du territoire, à l'AFD, à la Direction des impôts et à la Fédération bancaire française de Nouvelle-Calédonie. Les problématiques avancées étaient aussi variées que le panel des entreprises présentes, avec toutefois un dénominateur commun, celui de l'inquiétude concernant la trésorerie pour ces entrepreneurs mis en difficulté par les émeutes déclenchées le 13 mai dernier. Lionel Wolf est le directeur général de BNP Paribas et il est en charge de la Fédération bancaire française de Nouvelle-Calédonie.
Les questions qui sont revenues le plus souvent, elles ont trait aux besoins de trésorerie des entreprises, puisque beaucoup ont été sinistrés. Donc on leur a expliqué les différents dispositifs qui ont été mis en place avec le support de la SOGEFOM, le support de l'État. Mais il va de soi que chaque situation est spécifique. Et donc on recommande à tous nos clients d'aller voir leur chargé d'affaires pour pouvoir discuter avec eux, leur expliquer la situation, la façon dont ils voient les choses et comment la banque peut intervenir par rapport à une situation existante et par rapport à la projection qui pourrait être faite.
Les banques présentes ont aussi parfois dû tordre le cou à certaines idées reçues. Le banquier ne peut pas tout, ont-elles martelé. Et les banques sont des entreprises privées, elles ont donc également des comptes à rendre.
Le rôle de la banque, c'est d'accompagner ses clients et de faire en sorte qu'on puisse répondre à leurs demandes. Pas toujours favorablement et pas toujours de la façon dont ils le souhaiteraient, puisqu'on est responsable du risque qu'on prend. On doit rendre compte aussi aux régulateurs de la façon dont on gère la relation client et ce qu'on met à disposition de nos clients. Mais les banques n'ont pas toutes les réponses à toutes les questions de leurs clients. Le tissu bancaire en Calédonie est très solide, oui. Les banques calédoniennes sont adossées à des groupes forts et le système bancaire calédonien est bien géré, bien structuré et bien réglementé.
Julien Perrotto a un statut de micro-entrepreneur dans les domaines de la formation et de l'informatique. Le mois de mai et le mois de juin sont normalement synonymes de grosses activités. Pour lui, l'insurrection du 13 mai est donc venue fragiliser un peu plus son activité. Pour lui, ce rendez-vous était donc l'occasion d'avoir des réponses en direct, car, dit-il, ce n'est pas toujours si simple d'obtenir un rendez-vous avec son chargé d'affaires.
Je suis content d'être là parce qu'en fait, souvent il y a des intermédiaires entre notre conseiller. Là, on a eu la chance de parler avec les directeurs de la banque et on peut directement poser les questions. On peut, voilà, sache que même les conseillers, enfin, dans la gestion de la crise, on voit bien que eux aussi ont des problématiques d'avoir les bonnes informations à nous retransmettre. Et en l'espace de 15 jours, des fois, ils reviennent un peu sur des choses qu'ils auraient pu nous indiquer pour faire différemment, pour. Et c'est vrai que bon, des fois c'est un peu compliqué, comme certaines personnes ont pu le dire aussi, d'avoir pu avoir un contact avec notre conseiller en direct rapidement pour éviter l'hémorragie financière, répondre au mieux à nos besoins, déclencher les aides au plus rapide et pouvoir arriver à s'en sortir en fait, tout simplement.
Autre point apprécié par Julien, la mixité des profils présents où les grosses sociétés côtoyaient des petites entreprises comme la sienne. La Chambre de commerce et d'industrie a d'ailleurs multiplié ses rendez-vous de l'économie et les matinales en ce mois de juillet afin de tenter de répondre aux inquiétudes et aux difficultés du tissu économique. Avant ce rendez-vous consacré aux moyens bancaires, le rendez-vous précédent concernait le domaine des assurances.
L'économie sera également le thème principal avec notre invité demain. On sait que la mission reconstruction, mise en place par le président de la République à la fin du mois de mai, poursuit sa mission. À quel rythme? Avec quels interlocuteurs? Pour quelles avancées? Et comment le dossier économique est-il suivi à Paris? Nous ferons le point demain sur cette mission avec la présidente du MEDEF, Mimsy Délé, qui sera notre invitée à 7h30. Et puis, une information pratique. En août, le prix des carburants reste plutôt stable. L'essence baissera de 1,6 francs et sera donc à 167 francs le litre. Le gazole va quant à lui connaître une hausse de plus 0,9 francs par litre, atteignant 149,5 francs dans toutes les stations-service.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
La SIC se rapproche de ses administrés. Pour pallier les difficultés de la circulation ou de fermeture d'agences dues aux exactions, une permanence dans des locaux empruntés est régulièrement proposée un peu partout dans le Grand Nouméa, Sarah Mejri.
Ce matin, il s'agissait de la maison de quartier de Dimbéa-sur-Mer. 4 bureaux étaient mis à disposition par la SIC et ses partenaires pour répondre aux demandes des administrés. Parmi les partenaires, la Calédonienne des Eaux, une permanence de proximité qui arrange les habitants.
Je suis venue juste payer ma facture, toujours dans mon quartier, et je suis très satisfaite. Vu qu'il n'y a plus de car, on ne travaille pas, ça nous arrange. Et merci beaucoup de se déplacer déjà. Et on est content de leur service.
Je suis venu voir la SIC pour négocier un peu pour les loyers, comme on a perdu notre travail, ma femme et moi. Voilà. Donc, plus de boulot, un peu de difficulté pour payer le loyer. Quoi. Ça fait depuis la fin des émeutes, c'est-à-dire fin mai.
Bah évidemment, oui, on était mis au chômage total, donc complètement sans ressources, ça va être compliqué. Je sais pas, on va trouver un arrangement, un échelonnement sur les loyers pour le temps de retrouver un travail, mais bon, ça va être compliqué.
D'autres rendez-vous vont être mis en place un peu partout sur le territoire pour permettre d'aider la population. Alexandre Miro est le directeur de la SIC Magenta.
La SIC est en train de redéployer la proximité sur l'ensemble de Nouméa, du Grand Nouméa et même de l'extérieur, en déployant des permanences mutualisées avec des partenaires, notamment sur le Mont d'Or, Vallon d'Or Sud, sur Boulary, sur la zone Couture-Auteuil, sur la zone de Ducos, sur la zone de Dumbéa, sur la zone de Païta et également sur Paris, La Foy. Voilà, pour continuer d'apporter un service à l'ensemble des locataires ou à une grande majorité de locataires de la SIC.
Pour le directeur de la Calédonienne des Eaux, Luc Bourgade, il est important de trouver des solutions pour accompagner les administrés malgré la crise.
Un service public, ça ne fonctionne que quand il y a quand même un minimum d'argent pour compenser les charges de fonctionnement. Donc si on veut avoir de l'eau au robinet dans les prochaines semaines et les prochains mois, il faut vraiment que tous les usagers jouent le jeu et règlent leurs factures d'eau. Mais pour ça, il fallait qu'on trouve les moyens pour qu'ils puissent venir nous régler les factures d'eau, et c'est pour ça qu'on s'est installé ici. Il faut leur offrir une solution en plus des moyens numériques classiques. Il y a beaucoup maintenant qui utilisent les moyens Internet. C'est vrai que c'est très pratique, mais il y a quand même une partie de la population. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique, mais au-delà de la fracture numérique, il y a aussi les gens qui ont besoin certains d'avoir un contact physique et direct avec nous. Et c'est plus facile qu'au téléphone.
Dans les prochains jours, une partie de la SIC s'installera à Boulary dans les locaux de l'OPT pour proposer plus de proximité aux administrés.
Merci beaucoup. Sarah Mégerie, 18h02, l'heure de marquer une première pause dans ce journal. On se retrouve juste après et on évoquera la décision d'Hippolyte Sinewami de quitter le Sénat coutumier.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Liana Colombo.
Et je vous le disais, des tensions internes au Sénat coutumier. L'un de ses membres, par ailleurs président du Conseil des grands chefs, a démissionné aujourd'hui de son mandat de sénateur. Hippolyte Sinewami, qui dresse un constat amer du fonctionnement de l'institution, Gilles Ménage.
Il y a plusieurs mois et même plusieurs années, en réalité, que le grand chef de La Roche est en désaccord avec l'institution qu'il a lui-même présidée entre 2019 et 2020. D'où la mise en place en 2022 de Inatné Kanaki, le conseiller des grands chefs, qui veut remettre la parole coutumière au centre du débat, qu'il s'agisse de la crise Covid, du conflit de l'usine du Sud ou encore de la destitution d'Hugues Vémavé de son poste de président du Sénat. Hippolyte Sinewami estime en clair que le Sénat s'est politisé et que le silence de l'institution depuis le début des émeutes en mai est de nature à remettre en cause sa légitimité.
C'est tout simplement un constat, hein, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, sur l'outil en tout cas qu'est le Sénat coutumier. L'outil qui doit en tout cas porter la parole coutumière, qui je rappelle aussi vient des chefferies. Vient des chefferies, des clans et des familles, tout cela. Mais la raison c'est que on peut refaire l'histoire, mais Inès et Kanaki, c'est le conseil des grands chefs. Ça a été adopté au Congrès de Norvège en 2022 et puis aujourd'hui on continue le travail. Et ce qui a fait le déclic en tout cas, c'est par rapport aux événements récents qui sont arrivés, c'est le silence en tout cas du Sénat coutumier. Voilà, si on défend le peuple, on se doit d'être debout et puis de défendre le peuple. Donc, c'est la jeunesse aussi qui nous a porté, qui nous a sollicité en tout cas Inès Nekanaki, parce que la confiance n'y est plus. Que ce soit au niveau des institutions coutumières ou que ce soit au niveau de nos politiciens.
Un constat plutôt amer, donc, et selon Hippolyte Sinewami, la parole coutumière doit reprendre ses droits.
On est arrivé à une cinquième mandature. Ça fait plus de 20 ans que le Sénat coutumier existe. Et on fait le même constat tous les ans. Toutes les mandatures, et puis rien ne change. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit fidèle aussi à la population, à la chefferie, au clan, tout ça qui nous ont portés pour être ici. Et puis ben, de ramener aussi tout ça dans une réflexion, puis surtout une remise en cause, une remise en cause personnelle, pour que ça puisse profiter. Et puis ben, les décisions que les grandes chefferies prennent, eh ben, il faut que ça soit pris en compte aussi. Je pense qu'on est dans une logique aussi de réaffirmation et puis de réappropriation aussi de nos droits. Donc le 24 septembre, c'est la déclaration de souveraineté des chefferies. Donc ça veut dire que dans la déclaration de souveraineté, c'est interpeller aussi l'État que, et puis même les élus politiques ici, qu'on exige, nous, la place des coutumiers dans les discussions. C'est important qu'on y soit.
Hippolyte Sinewami estime notamment que la question centrale, selon lui, du foncier doit impérativement être reposée et rediscutée. Il sera remplacé à son poste de sénateur par une personnalité de Marais, mais qui ne sera pas issue de la grande chefferie de La Roche.
Vous écoutez Info Soir, les 18h06.
Quel regard portent les artistes sur la situation insurrectionnelle que connaît la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai ? Quel rôle peut jouer la culture en général dans la reconstruction du lien social qui a été brisé ? C'est le thème ce midi de notre magazine citoyen, Gilles.
Depuis le 13 mai, la Nouvelle-Calédonie a connu une flambée de violence et de destruction sans précédent dans son histoire récente. Elle a brisé des vies, détruit l'économie, mais aussi profondément affecté les relations sociales entre des communautés qui jusqu'alors vivaient en paix. Pour l'écrivain Nicolas Kurtovitch, au-delà de la tristesse face à tant de violences, c'est surtout la déception qui domine.
Les gens qui parlent, qui analysent, etc., nous disent que c'est l'explosion de la jeunesse laissée sur le bord du chemin, la jeunesse qui ne trouve pas sa place, la jeunesse exclue du monde du travail, alors là ça me dépasse, l'école inadaptée, c'est ça. Pour moi, c'est faux, c'est un leurre, c'est un voile mis devant la réalité. On est devant un fait politique, essentiellement politique. On est devant rien d'autre que ça. Et c'est ça qui me déçoit. Ce qui me déçoit, c'est que le mouvement indépendantiste, aujourd'hui, a pris cette voie-là. Et ça, c'est vraiment décevant. Parce que c'est un chemin qui fait des destructions irréversibles, à mon avis. On parle de reconstruction, il y en a pour des décennies et des décennies de désolation.
Depuis de nombreuses années, des artistes se sont mobilisés pour construire un lien social indifférent aux questions ethniques et sociales. C'était sincère et respectueux, affirme le danseur et chorégraphe Stan Kabarlouet.
La culture et l'art, en général, ont leur devoir de faire fonctionner les communautés entre elles. On l'a fait, je pense que beaucoup d'artistes en Calédonie, chacun à leur niveau, ont participé à la construction et ont cru en ce destin commun. À mon sens, peut-être que le pouvoir d'action de la culture n'a peut-être pas, a peut-être été sous-estimé et qu'il mériterait, je l'espère, dans les prochaines années, d'être plus entendu et d'être plus présent dans un projet de société.
Le danseur, auteur et comédien Simon est lui originaire de Lifou et vit dans le quartier de Rivière-Salée. Et au plus fort des émeutes, il a eu le sentiment de vivre un conflit ethnique.
Je ne me suis pas tout de suite rendu compte. C'est quand j'ai commencé à aider mes voisins, entre guillemets, pour passer les barrages. Je me mettais en chef de bord. Et mes grands frères, ils faisaient chauffeur à tour de rôle. Et dans mon quartier, j'ai mon voisin kabyle. Plus loin, j'ai le voisin wallisien, vietnamien, indonésien. Et quand on allait faire les courses, moi, je me mettais en chef de bord pour faire passe-droit, entre guillemets. Et t'as les jeunes du quartier qui me voyaient, qui disaient « Ah, c'est bon, c'est Simon, allez, on laisse passer. » Il a fallu que ça arrive pour que je me rende compte que je suis kanak noir. Et c'est dans le regard des gens.
Dès lors, comment reconstruire un lien qui a été considérablement fragilisé en seulement quelques semaines ? Il y faudra beaucoup de nuances, estime la peintre Caroline de Groisel, comme sur une toile.
L'équilibre d'une toile, c'est d'embrasser les contrastes. C'est pas 50-50%, hein, c'est qu'il y ait toujours le pour, le contre, le noir, le blanc, l'opposé. Et je crois qu'on vit avec, on doit vivre avec, et on doit justement créer quelque chose avec ces oppositions. C'est la réussite d'une toile, et pourquoi pas la réussite d'une société aussi.
Un magazine citoyen que vous pouvez bien sûr retrouver en intégralité audio sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, après l'assouplissement du couvre-feu qui débute désormais à 22h, faut-il, selon vous, autoriser les cavistes à rouvrir? Si vous pensez que oui, vous tapez 1, si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 89% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'avec le licenciement annoncé de ces 1200 salariés, KNS n'a plus d'avenir. Ils sont 11% à penser que malgré la situation, KNS a encore un avenir. 18h10, c'est maintenant l'heure de marquer une seconde page de publicité et nous parlerons notamment de l'annulation des Francofolies prévue au mois de septembre.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu.
Derrière nos agents, des clients comme vous, au service de la même exigence. Rendez-vous sur notre nouveau site office.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information.
Info soir la suite, Léana Colombo.
Et l'édition 2024 des Francofolies est annulée. La décision a été prise par Musical Productions en raison de la situation difficile dans laquelle se trouve aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie. La manifestation aurait dû se tenir au centre culturel Chibaou en septembre prochain. Elle avait déjà été annulée l'an dernier en raison d'une mauvaise météo. Un nouveau coup dur, nous dit le directeur des Francofolies, Chris Tateossian.
Parce que les conditions de bonne tenue du festival n'étaient pas réunies du tout. Vu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'était quand même plus raisonnable d'annuler. Malheureusement, on était vraiment contraint de le faire et on est hyper déçus. C'est quand même plus d'un an de travail pour arriver à ça, mais bon. Entre l'année dernière où on a dû annuler pour cause de mauvais temps et cette année, avec toutes les exactions, c'était un peu compliqué là, de mener cette édition. On avait fait une pré-vente sans annoncer les artistes. On avait Zao de Sagazan, Deluxe, Skills the Youth, Kiken Jaffacoli et Josman. Normalement, on devait annoncer tout ça au mois de mai, mais vu ce qui s'est passé, on a attendu vraiment le dernier moment pour dire qu'on allait pouvoir maintenir cette édition. Mais là, on est fin juillet, on croit que même si ça commence un tout petit peu à s'améliorer, tout n'est pas réuni en termes de sécurité pour qu'on puisse faire le festival dans des meilleures conditions. Bien sûr, on va rembourser tout le monde, pas que ce soit d'ailleurs pour les Francofolies, puis d'autres spectacles qu'on avait menés avec Laura Lone et puis le report de Franjo. Donc voilà, on tient bien sûr à rembourser tout le monde. Après, ceux qui veulent nous soutenir peuvent ne pas se faire rembourser, peuvent écrire en tout cas à la billetterie pour nous laisser les billets. Ça nous aiderait bien dans ces moments difficiles.
Et les personnes qui avaient déjà acheté leurs billets pour les Francofolies 2024 peuvent donc se faire rembourser via le site ticket.nc. L'actualité dans le Pacifique, à Tokyo, où ils étaient en réunion. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Quad se sont à nouveau prononcés en faveur d'une Indo-Pacifique libre et prospère. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Les chefs de la diplomatie du Quad, ce dialogue quadrilatéral pour la sécurité qui comprend les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, se sont certes abstenus dans leur communiqué final, de citer nommément la Chine, mais il est clair que c'est à l'Empire du Milieu que leur message était adressé. À l'initiative du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ils ont en effet à nouveau exprimé leurs vives inquiétudes quant à la militarisation de certains atolls inhabités de la mer de Chine méridionale. Mais ils se sont aussi dit alarmés par l'incessante intervention de la Chine dans la région, où elle ne cesse d'accroître son influence par le biais des projets infrastructurels ou autres qu'elle y finance. Raison pour laquelle les ministres des Affaires étrangères du Quad se sont à nouveau prononcés en faveur d'un Indo-Pacifique libre et prospère. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et on termine par le sport, où on va bien entendu parler des Jeux Olympiques et surtout de nos Calédoniens.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024. Bien.
Les Jeux Olympiques, le programme de la soirée et de la nuit, avec quelques rendez-vous à retenir, Jean-François Baudin.
Oui, notamment en judo, avec les premiers tours en début de soirée des moins de 63 kilos, avec moins de 63 kilos féminines, avec Clarisse Agbenenou, et les moins de 81 kilos hommes, avec Alpha Oumar Diallo, avant les demi-finales et finales qui auront lieu après 1h du matin. En natation, à partir de 20h17 ce soir, on suivra évidemment l'entrée dans ces Olympiades du Calédonien Maxime Grousset. Il est aligné sur les séries du 100 mètres nage libre et juste après, on suivra les séries du 200 mètres papillon avec le tout récent champion olympique du 400 mètres 4 nages, Léon Marchand. En natation toujours, on attend aussi avec impatience la finale du 100 mètres d'eau d'Emma Terebo. Ce sera demain à 5h56, juste après la demi-finale du 100 mètres nage libre de Maxime Grousset. Il devrait aussi y avoir des régates d'IQ Foil avec Nicolas Goyard si le vent souffle assez fort sur le plan d'eau de Marseille. Et puis à minuit, Yolen Yengo et l'équipe de France de rugby à 7 affronteront l'Irlande, un match de classement pour tenter de décrocher une cinquième place dans ce tournoi, puisque les Bleus, rappelons-le, ont été éliminés ce matin en quart de finale, battus par le Canada.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et c'est Gilles, habitant au 6e kilomètre, qui est aujourd'hui le gagnant de notre jeu de mémoire de jeu. Il remporte un bon carburant de 5000 francs offert par notre partenaire Shell. Nous vous demandions qui est le seul coureur de fond à avoir remporté une médaille d'or sur le 5000 mètres, le 10000 mètres et le marathon lors de la même Olympiade. Vous aviez le choix entre le Marocain Hicham El Guerrouj, le Tchèque Emil Zatopek ou l'Éthiopien Haïlé Gebrselassie. La bonne réponse, c'est Emil Zatopek. Il a réussi l'exploit de gagner le 5000 mètres, le 10000 mètres et le marathon lors des Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952, une performance qui n'a jamais été reproduite depuis. Et de rendez-vous demain pour une nouvelle question de mémoire et de jeu sur RRB. 18h17, l'heure de passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, alors, cette nuit, le ciel deviendra très nuageux à couvert sur la majorité du territoire. C'est sur le nord que les éclaircies seront les plus larges. Sur l'est, les averses poursuivront en soirée, puis s'évacueront en mer. Ailleurs, la nuit sera ponctuée d'averses faibles. La côte est reste déventée. Ailleurs, le vent de secteur sud soufflera de 10 à 15 nœuds, localement moins de 10 nœuds sur le sud-ouest. Les températures minimales seront comprises entre 16 et 20 degrés, et de 13 à 15 degrés, ce sera sur l'ouest. Demain matin, les nuages élevés voileront le soleil. Aux loyautés, quelques averses faibles circuleront encore. Ailleurs, le temps sera sec. Le vent de secteur sud se maintiendra généralement de 10 à 15 nœuds, autour de 15 nœuds sur la pointe nord et Bélep et de 5 à 10 nœuds sur le sud-ouest. Il sera variable faible sur l'est à l'abri de la chaîne.
Et merci beaucoup Nicolas pour la météo et la technique. C'est la fin de cette édition.